Je vous salue tous au nom de, au bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous étions encore pour une fois bien conduits vers le sujet de la prédication que nous allons prendre. Dieu est souverain, Dieu est roi. Et dans le chant que nous avons chanté, Dieu éternel est roi. Et Dieu il est éternellement roi aussi. Et le titre que j'avais donné pour ce message, pour ce matin, c'est « Un autre roi ». Prenez avec moi dans le premier livre de Samuel. Le premier livre de Samuel, chapitre 8. On va lire le premier 9 premiers versets. 1 Samuel, chapitre 8. Verset 1 à 9. En Samuel, chapitre 8, verset 1 à 9. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juste sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second, Abija. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces et se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Ils agissent à ton égard comme ils sont toujours agis depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Comme nous allons considérer ce passage ce matin, nous devrions premièrement comprendre que dans l'histoire du peuple de Dieu, ce fut un moment très important. Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte et cela faisait à peu près 450 ans qu'il jouissait si les enfants n'ont pas encore parti, ils peuvent partir pour la classe petite. Merci. Donc, Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte, et cela faisait à peu près 450 ans qu'il jouissait dans le pays de Canaan. Samuel, le grand prophète de Dieu, et qui sera le dernier juge d'Israël, est âgé et sa fin approche. Et c'est en ce moment même, dans ces derniers jours, que le peuple d'Israël vient vers le vieux Samuel, et lui demande, « Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Et ce n'est pas la première fois qu'Israël demande un roi pour régner sur eux. Après la mort de Josué, il n'y avait personne pour diriger le peuple. C'est alors que Dieu a établi des juges pour gouverner sur Israël. Quand Gédéon était juge d'Israël, ils ont demandé à Gédéon d'établir un roi pour eux. Mais Gédéon refusa leur demande et encouragea le peuple à être soumis à Dieu. Écoutez ce que Gédéon, il les dit. En Juges chapitre 8, 22-23, je vais lire. Les hommes d'Israël le dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils. » Et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Quelle parole sage. Il offre le trône, mais Gédéon refuse. Il dit que non, je ne dominerai point sur vous, ni mes enfants. Le verset nous indique que l'homme est fait pour être dominé ou pour être gouverné par Dieu. Dans notre temps, ces mots « dominer » ou « gouverner » sont péjoratifs à cause de la chute de l'homme. Dès qu'on entend le mot « dominer » ou « gouverner », on n'aime pas trop. Et souvent, les mots que nous utilisons, nous avons un sens péjoratif. Souvent, nous ne gardons pas un bon sens pour ces mots. Mais ce n'est pas mauvais. Et dans le bon sens. Mais ce serait plus simple si nous acceptons cela. Aussi, l'homme a besoin d'admirer et adorer quelqu'un ou quelque chose. Ça, c'est un besoin inné, naturel, dans l'homme. Oui, nous sommes créés ainsi par notre Dieu créateur. Et ce besoin naturel d'adorer quelque chose ou quelqu'un peut être satisfait uniquement quand l'homme adore son seul vrai Dieu pour la raison pour laquelle il a été créé. Et seulement Dieu peut gouverner ou dominer sur nous sans avoir aucune intention égoïste, sans profiter de nous dans le sens propre. Et quand, si nous laissons des autres dominer sur nous ou gouverner sur nous, nous savons tous qu'ils profitent de nous. Ils sont tous une raison égoïste pour dominer sur nous. Mais seulement quand Dieu il gouverne sur son peuple, quand il est roi de son peuple, il n'y a pas l'égoïsme. Il fait pour notre bien. Nous avons besoin d'être gouvernés par un roi qui est Dieu. Alors depuis Gédéon, le temps a passé et encore une fois, Israël demande un roi, mais cette fois sans relâche. C'est une des pages sombres de la Bible. Vous me demandez pourquoi. Regardez la dernière partie du verset 7 de ce passage. Qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qu'ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux. C'est Dieu qui dit. C'est moi qu'ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a rappelé à son peuple dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20, 2 à 6. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Ça, c'est le commandement de Dieu. Tu aimeras, sinon autrement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, 37. Bien qu'ici, il n'y a pas question d'un autre Dieu. Mais ce peuple demande de Dieu un roi. Et en demandant ainsi, il rejette l'autorité de Dieu sur eux. Il faut noter ici, rejeter l'autorité de Dieu dans nos vies, c'est rejeter Dieu. Renoncer à la volonté de Dieu pour notre vie, c'est renoncer Dieu. Nous imaginons rarement ce que cet état de ne pas pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée peut engendrer dans notre vie. Si nous n'avons pas assez d'amour dans notre vie pour Dieu, nous nous imaginons mal ce que ça peut engendrer dans notre vie. Nous ne nous envisageons pas que nous pouvons être poussés à rébeller contre Dieu quand nous n'arrivons pas à aimer Dieu comme nous devrions l'aimer. Quand, si nous désobéissons, si nous rébellons contre le commandement de Dieu, contre la parole de Dieu, ça veut dire que nous avons manqué l'amour pour Dieu. Nous n'avons pas assez d'amour pour aimer Dieu. Même si notre passage nous fait penser que la demande du peuple peut être légitime, prenant compte du contexte, nous devrions considérer comme le Seigneur a vu, comment le Seigneur a vu cette demande du peuple pour un roi. Si nous regardons le contexte, Samuel, le juge que Dieu a établi sur Israël, est maintenant vieux pour exercer ses fonctions. Mais Samuel, il a fait la grande chose pour Israël. C'est un grand juge qui a gouverné sur Israël, et maintenant il est vieux. Il se limite à Rama et ses banlieues, comme il est vieux, et laissa ses fils juger dans la région du sud d'Israël. Il ne peut pas aller très très loin, donc il laisse ses fils régner sur la région du sud d'Israël. Ses fils Joël et Abijah étaient juges à Beersheba. Le fils de Samuel ne marche point sur ses traces, pas dans la voie de Samuel, comme Samuel il a été avec Dieu, et se livrait à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Un juge qui viole la justice, comment il peut être un juge? En total, rien ne va plus. Donc le contexte il est sombre. Mais l'état de la corruption dans la vie du fils de Samuel reflétait simplement l'état de corruption dans le cœur du peuple de Dieu. On ne peut pas simplement blâmer le fils de Samuel. Le pays entier, le peuple d'Israël, était corrompu. Il ne craignait pas la parole de Dieu. Malheureusement, nous nous trouvons dans la même situation après tant de siècles. Les individus ne cherchent pas la volonté de Dieu pour leur vie, mais cherchent à accomplir la volonté de leur chair. Les meneurs spirituels et les églises ne font pas ce qui est droit dans le regard du Seigneur. Nous voyons autour de nous. Ça suffit d'allumer la télé pour regarder les chaînes spirituelles, entre guillemets. Nous voyons tant de choses. Malgré la situation sombre, c'est-à-dire la faiblesse des hommes de Dieu, Samuel et la corruption de ses deux fils, la raison pour laquelle les anciens d'Israël sont venus auprès de Samuel à Rama n'était pas valide. Regardez les versets 5. Ils lui dirent, « Voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Nous devrions souligner une chose ici. Nous sommes capables d'exactement, comme ce peuple d'Israël, de prendre une situation comme prétexte pour demander à Dieu quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. On peut prendre comme prétexte. On est très très malin. On sait comment manipuler. On pense qu'on peut manipuler Dieu, mais on ne peut pas manipuler Dieu. Ça, c'est la vérité. Mais le passage en entier, ça peut nous aider quand nous agenouillons pour prier. Comment nous prions, comment nous utilisons les mots, comment sont nos paroles dans nos prières, comment nous avons cette tendance de manipuler Dieu. Donc, ils prennent simplement le contexte comme un prétexte pour demander à Dieu quelque chose qui n'est pas dans sa volonté originellement. Nous essayons de justifier nos demandes. on peut demander une Porsche et on est capable de justifier aussi. Bien que nous n'avons pas certainement besoin d'une voiture de ce type. Nous essayons de justifier nos demandes, légitimiser nos demandes qui sont autrement impures et égoïstes et qui ne glorifient pas le Seigneur. Est-ce que toutes nos demandes dans notre prière, nos requêtes, est-ce que c'est avec le but de glorifier le Seigneur pour sanctifier son saint nom? Si nous sommes des enfants légitimes de Dieu, notre devoir est de sanctifier le nom de Dieu et nous soumettre à faire sa volonté. Dans la prière du Seigneur, nous disons, nous connaissons par cœur, et notre devoir, c'est faire sa volonté. C'est avec ce but que nous approchons Dieu. Dieu est souverain. Il est souverain éternellement. Quand on dit Dieu est souverain, il est souverain éternellement. Depuis toujours, il est souverain. Et il sera souverain. Il sera souverain. Il connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Voyez ce que Dieu a dit alors que le peuple de Dieu était encore dans le désert, avant même qu'il entre dans le pays de Canaan. Tournez avec moi, s'il vous plaît, en Deutéronome, chapitre 17. Deutéronome, chapitre 17, à partir de verset 14. Deutéronome, chapitre 17, nous allons lire à partir de verset 14 jusqu'à 20. Le peuple, il était encore dans le désert. Ils n'ont pas arrivé à Canaan. Mais Dieu a dit ces choses, ce qui va arriver. Donc le verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple d'Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grand amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il l'écrira pour lui dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Verset 19. Il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. C'est bien avant que le peuple puisse arriver à Canaan, bien avant qu'ils demandent un roi sur eux, Dieu voyait ce qui va arriver. Il a prévenu. Dieu a connu et décrivé cette situation d'une manière très précise, bien avant 450 ans. Tu sais, quand je marche et quand je me couche, David disait, 139, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où j'irai-je? Loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? David l'a bien compris, la souveraineté de Dieu. Il savait ce que Dieu est capable. Notre crainte de Dieu devrait évoluer de notre connaissance sur l'omniscience de Dieu. Si nous connaissons que Dieu il est omniscient, ça nous devrait donner la crainte au-dedans de nous, dans nos cœurs, qu'on ne peut rien faire sans que Dieu le sache. Mais pourtant, David, il a fait, il a commis les péchés. Il savait que Dieu il est omniscient, mais pourtant, il a commis les péchés. Oui, Dieu connaît tout sur nous. Il est notre Père. C'est lui qui nous a créés. Il est notre Créateur. Il nous connaît entièrement comme le fabricant qui connaît son ordinateur. Et il a tout décrit dans ce manuel qui est la Bible. Dieu connaît toutes choses sur nous. C'est lui qui nous a créés. Et il a tout écrit dans ce livre sacré. De nos jours, les machines de haute technologie que nous utilisons dans la vie quotidienne sont tous programmés pour tomber en panne après un certain temps. Surtout après la période de garantie. Oui, nous ne pouvons pas imaginer jusqu'où l'homme peut descendre dans son égoïsme et dans son autodestruction. Il appelle cela, je ne sais pas, vous savez ce mot, j'ai appris, l'obsolescence programmée. C'est-à-dire, il programme déjà que votre machine à laver devrait tomber en panne au bout de 5 ans. Mais vous avez bien sûr pris une garantie de 5 ans avec Darty. Mais c'était programmé de tomber en panne après 5 ans. Si nous n'arrivons pas à comprendre ces mots, pas de problème. Mais sachez que la machine que vous venez d'acheter va tomber en panne dans un certain temps. Dieu qui est notre Créateur n'agit pas de la même façon. Il sait comment et pourquoi nous allons agir d'une certaine manière dans un certain temps de notre vie. Mais, en même temps, Dieu ne nous pousse pas à chuter ou désobéir à sa volonté. Il savait très bien ce que le peuple va faire après 450 ans. Il savait, il a prédit. Mais ce n'est pas Dieu qui a poussé ce peuple à commettre ce péché, à commettre ce qu'ils sont en train de faire. Dieu qui est amour est incapable d'agir ainsi. Dieu ne peut pas agir de cette façon. Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, dit Jacques. Regardons le verset 5 de notre passage. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. La deuxième partie de ce verset, je pense, dévoile leur cœur. Comme il y en a chez toutes les nations. Certes, ils n'étaient pas contents avec leur gouverneur, surtout avec les deux fils de Samuel, mais la raison pour laquelle ils demandent un roi est complètement différente. Nous devrions faire attention quand nous demandons des choses à Dieu dans nos prières. La plupart du temps, nous inquiétons pour les mots que nous utilisons, mais Dieu voit notre intention. Et souvent dans notre prière, mais on essaie de formuler nos prières aussi intéressantes possible, pensant que Dieu va entendre notre prière. Mais Dieu, il n'a pas de souci pour nos mots. C'est nous qui avons le souci et l'inquiétude pour nos mots. Dieu le comprend tout à fait. Dieu n'a pas besoin qu'on parle même. Il connaît nos cœurs. Dieu voit notre intention, nos motivations quand nous demandons quelque chose à Dieu. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Approchons du trône de la grâce, d'accord, mais aussi avec la crainte dans le cœur pour faire sa volonté. Mais souvent, nous utilisons ce mot facilement. Approchons-nous donc de la trône de la grâce. On aime bien chanter ce cantique et dire ces mots. Mais est-ce que nous avons compris le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'il désire en nous? Et est-ce que nous savons que Dieu connaît toutes choses quand nous prions? On ne peut pas tricher Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu avec notre mot futile. Notre souci devrait être faire la volonté de Dieu. Maintenant, établissez-nous un roi pour juger, pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Dieu a racheté son peuple pour lui-même. Il les a fait sortir d'Égypte, où il était esclave d'un roi païen. Il les a séparés des autres nations afin qu'ils puissent l'adorer et seulement lui. Et maintenant, ces gens ont commencé à regarder tout autour d'eux. Et je me demande même s'ils n'ont pas été séduits par l'arôme de l'esclavage égyptien. Les doux arômes du péché et de son attrait, des arômes des oignons et des ailes. Dans notre marche avec Dieu, nous sommes censés regarder vers l'avant et jamais en arrière. Dieu nous a ordonné de ne tourner ni à droite ni à gauche, ne pas regarder autour de nous. Et bien souvent, les enfants de Dieu tombent parce qu'ils ont cette tendance à regarder autour d'eux et à combattre. Et combattre, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas réservé pour toi. Tu ne devrais pas avoir l'envie pour avoir cette chose. Et peut-être tout autour de ce peuple d'Israël, il avait des rois. Peut-être c'était adapté à eux, mais ce n'était pas adapté pour le peuple de Dieu. Car Dieu régnait sur eux. Maintenant, établissez-nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Cette convoitise était peut-être dans le cœur depuis longtemps, et maintenant ils ont trouvé un bon moment pour exprimer le désir de leur cœur. Ça ne vient pas tout de suite. Hein. Nous savons comment le péché il évolue dans notre cœur. Ça commence avec une petite chose. C'est pourquoi dans la cantique, il dit « Attrapez-nous le petit renard. » Parce que c'est le petit renard qui détruit nos vignobles. Cette convoitise était peut-être dans leur cœur depuis longtemps et maintenant, ils ont trouvé un bon moment pour exprimer le désir de leur cœur. Dans un moment où le règne de Dieu était faible, à leurs yeux, bien sûr, ils expriment ce besoin. Pour Dieu, jamais le moment est faible. Si Dieu est souverain, s'il règne sur son peuple, il n'y a pas un moment faible. Mais dans les yeux de ses enfants d'Israël, c'était un moment opportun pour demander à Dieu, certainement il va accorder. Mais comme les enfants qui prennent un moment qui est embarrassant pour les parents pour demander le bonbon. Et comme ça, les parents ils sont sûrs de donner, acheter le bonbon. Ils vont demander devant des gens. Et on n'est pas mieux que les enfants. On se conduit comme des enfants toujours. La folie de l'homme pécheur. Il avait regardé les nations autour d'eux. Il désirait être comme eux. Il voulait un roi pour faire comme tout le monde. Voyez-vous le danger dans ces lignes de pensée? Dieu avait établi son pouvoir en Israël, mais il n'était pas heureux avec la voix de Dieu. il préférait les voies modernes du monde. Alors, on peut dire que dans notre Église, les cantiques sont vieux. Nos façons d'utiliser la musique aussi, ce n'est pas très moderne. Et on est un peu daté, on peut dire. Mais nous devrions être là où Dieu a prévu que nous soyons là. Nous ne devrions pas être ailleurs. Avec la conformité de la parole de Dieu. Ils ignoraient tout ce que Dieu avait fait pour eux dans le passé. Ils ne se souvenaient pas des bénédictions maintenant, des providences divines et de la protection qu'il avait fournie. Dieu était leur roi, mais ils voulaient un autre roi. Dieu était toujours roi, dans le désert, dans la montagne, dans la vallée. Quand ils ont traversé la mer Rouge, quand ils ont traversé le Jourdain, Dieu était le roi. Et tout d'un coup, il demande à un autre roi. Dieu avait choisi l'Israël de toutes les nations pour être sa propre possession précieuse. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que soyez à moi. Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé du peuple afin que vous soyez à moi. Donc Dieu a séparé son peuple des autres peuples. Il appelle les saints, car lui, il est saint. Mais le peuple, je ne sais pas, il comprend ce privilège. Et nous, nous sommes appelés saints. Apôtre Paul, souvent quand il écrit dans ses épîtres, il adresse aux saints dans les églises de Christ. Nous savons que nous sommes des pécheurs, mais Dieu, il ne voit pas de la même façon. Dieu, il nous voit comme saints à cause de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'était un grand privilège dont aucune autre nation n'avait bénéficié. Et même aujourd'hui, nous pouvons appliquer la même chose. Nous sommes saints, nous adorons un Seigneur qui est saint, mais est-ce que nous rendons compte de cet privilège que nous avons? Mais nous voulons un autre roi. Nous cherchons un autre roi. Nous cherchons un autre mode de vie. Dieu avait appelé Israël à être le sien. Il était censé être différent. Hélas, maintenant, il voulait être comme les autres. En tant que chrétien, Dieu nous demande d'être différents du monde. Dieu avait appelé Israël à être le sien. Dieu nous appelle à être saints, mais souvent, nous ne voulons pas nous démarquer. Je pense qu'il y a quelque chose en nous. Quand, ici, oui, on n'a pas de problème. Dès que nous sortons de ce bâtiment, nous avons cette envie d'être comme les autres. Nous faisons tout pour dire que nous ne sommes pas différents que vous. Vous préférez peut-être vous fondre avec le monde. Il y a beaucoup de pression pour vous conformer. Mais en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à être différents du monde qui nous entoure. Dieu nous demande d'être le sel, pas des diamants. Dieu nous demande simplement d'être le sel. On n'a pas besoin d'être le diamant pour attirer le regard des autres, pour briller comme les autres. Le diamant, il ne peut jamais avoir la saveur du sel. Nous sommes confrontés à la même situation dans le monde aujourd'hui en tant que des enfants de Dieu. La société met beaucoup de pression pour se conformer aux voies du monde. Nos jeunes sont encouragés à être comme la foule. Le monde nous oblige à nous habiller comme tout le monde, à parler comme tout le monde, de manger comme tout le monde. Pourquoi payer cher pour une marque? Parce que tout le monde devrait porter la même marque. on paye très cher pour porter ce marque. Pour faire de la publicité gratuite pour quelqu'un en plus, on paye très cher pour faire la publicité pour une marque. J'ignore. Mais pourquoi payer cher pour faire la publicité pour quelqu'un qui prend tout votre argent? Pourquoi payer cher pour un pantalon déchiré? Mais il faut savoir que nous sommes chacun, on est unique dans les yeux de Dieu. On est créé comme être humain unique. Nous avons une identité. Nous avons un nom qui est gravé dans la main du Seigneur. Et ça ne suffit pas. Pourquoi porter un marque? Les gens qui sont perdus, ils ont besoin d'une identité, donc ils portent certains signes sur leur t-shirt ou sur leur dos. Mais nous sommes les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de ce type de choses. Nous ne cherchons pas une identité dans le monde. Il y a un prix à payer. Il y aura toujours, quand nous cherchons à nous plaire, au lieu de chercher à plaire le Seigneur, il y a toujours un prix à payer. Et souvent, cela nous coûte très cher. Il faut savoir que nous sommes haïs dans ce monde parce que nous sommes différents. Et nous serions haïs pour cette raison. Il y a normalement une énorme pression sur la muraille qui divise le mensonge de la vérité. Et c'est normal. Le chrétien devrait être comme le goutte d'huile dans un vase d'eau. Vous mettez une goutte d'huile dans un vase d'eau. Vous le secouez et vous pouvez faire ce que vous voulez. Il ne se mélangera jamais avec l'eau. L'énorme pression de l'eau sur cette petite gouttelette d'huile va le faire flotter sur la surface d'eau dans le vase. Nous sommes différents parce que nous voulons. Nous voulons être différents, mais nous sommes différents par le fait que nous sommes les enfants de Dieu et que nous appartenons au royaume de Dieu. L'Église abandonne les vérités de la parole de Dieu pour plaire au monde. Ils ne soucient plus d'honorer le Seigneur. Leur objectif est d'être comme les autres églises. Individuellement et en tant que corps de Christ, nous sommes confrontés à des défis. Nous n'avons pas besoin de nous conformer au monde. Nous avons besoin de la présence et de la puissance de Dieu. Regardez le verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Samuel pria l'Éternel. Samuel, l'homme de Dieu, a compris tout de suite leur intention. Ses fils ne marchaient pas sur les pas de leur père. Samuel, comme son prédécesseur Élie, a peut-être échoué dans l'éducation de ses enfants. Ce n'est pas notre intérêt de traiter ce problème ce matin, mais nous devrions certainement noter ici l'attitude de Samuel face à ses accusateurs. Il tourne vers Dieu, son maître. Comment nous agissons dans une telle situation? Nous cherchons à trouver des excuses? Nous cherchons à trouver une solution par nos propres moyens? Nous lancer dans l'interminable discussion ou argument pour nous justifier? Ou tout simplement tourner notre regard vers le Seigneur? Dans les situations où nous pouvons tourner nulle part, nous pouvons tourner vers Dieu. Il ne rejette personne. Dieu a déjà connu le rejet par son peuple en plusieurs occasions depuis qu'il les a fait sortir d'Égypte. Quand ils détournent le regard du mont Sinaï pour adorer le veau d'or, ne rejetèrent-ils pas Dieu? Et Dieu, il était en train de donner les 10 commandements sur la tablette de pierre. Le même moment, les gens regardaient autre chose. Ils cherchaient à adorer autre chose. Le mont Sinaï a fumé. Il y avait des fumées qui sortaient de mont Sinaï. Et le même moment, le peuple il était en train de se prostituer pour adorer un autre Dieu. Rappelons les faits de Nombre 14. Quand le peuple d'Israël voulait lapider Moïse, après le dissuader de l'espionnage, le serviteur de Dieu, Dieu vit ce rejet comme une rébellion contre Dieu lui-même. Quand Moïse il vient implorer Dieu, il pleura. Quand le peuple il voulait le lapider, Moïse qui a conduit ce peuple jusque-là, mais Dieu vit ce rejet comme une rébellion contre lui-même. Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Psaume 106, 14 à 15. Voulez-vous entendre le battement de cœur de Dieu dans ces instants quand son peuple a rejeté Dieu? Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, 38. Oui, nous avons un Dieu qui nous aime, que nous ignorions parfois quand nous sommes dans nos voies de désobéissance. Quand nous marchons dans la désobéissance, quand nous sommes entêtés dans la rébellion, nous ignorions que nous avons un Dieu qui est un Dieu d'amour. Regardons maintenant le verset 7. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton regard comme ils l'ont toujours agi depuis que je les fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir des autres dieux. » Je pense que ce moment, c'est seulement Samuel il peut comprendre combien c'était douloureux pour Dieu. Quand Dieu prononçait ces paroles à Samuel, ces paroles de Dieu ont un air de tristesse. Quand nous reconnaissons le pouvoir de Dieu sur l'univers et sur toute sa création, tout obéit à Dieu sauf l'homme. Dieu est capable d'anéantir la race humaine de la surface de la terre par un souffle de sa narine. Mais pourtant, il ne fait pas. Il y a de précieuses leçons dans ce passage pour nous. Rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Rejeter l'envoyé de Dieu, l'homme de Dieu, et rejeter Dieu lui-même. Rejeter la volonté de Dieu, et c'est aussi rejeter la personne de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre Dieu comme nous voulons. Une partie de Dieu ou un attribut de Dieu et rejeter un autre attribut de Dieu. Dieu est inséparable dans sa Trinité éternellement. On ne peut pas faire la petite partie de Dieu comme on veut. Dieu est inséparable, séparable dans sa Trinité et éternellement. Certains chrétiens disent qu'ils acceptent Dieu, mais pas son Église. Quand on parle du corps humain, il consiste aussi la tête. Christ est la tête de son Église. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean 4, 20. Nous ne pouvons pas non plus adorer le Seigneur le dimanche et adorer le monde les autres jours de la semaine. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Jésus, il disait, le monde m'a haï avant vous. Nous savons pourquoi le monde a haï les prophètes de Dieu. Parce qu'ils portaient la parole de Dieu. Pas pour autre chose. Le monde il haïssait les prophètes de Dieu parce qu'ils portaient la parole de Dieu. Bien sûr, si vous et moi, nous sommes des porteurs de la parole de Dieu, nous ne devrions pas être étonnés si le monde il nous haït. Bien sûr, si vous et moi, nous sommes des porteurs de la parole de Dieu, le monde nous haïra, c'est sûr. Regardons maintenant le verset 9. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Et parfois, on peut demander des choses à Dieu et Dieu ne donne pas. Parfois, il dit oui à notre prière et parfois, il dit non. Parfois, il dit rien. Il y a un silence. Et si nous persistons ou nous insistons Dieu de dire oui, il dit un oui, mais nous devrions récupérer ce que ça peut engendrer. Toutes les choses, Dieu il nous lâche avec cette situation. Et quel malheur, quelle malédiction ça peut être. Et nous devrions remercier le Seigneur pour les choses qu'il ne donne pas. Mais souvent, nous avons la tendance de remercier le Seigneur pour les choses que nous recevons. Et Seigneur, par sa grâce et par sa miséricorde, parfois, il ne nous donne pas des choses de sa propre volonté. Nous devrions apprendre à remercier le Seigneur pour les choses qu'il ne nous donne pas. Et en tant que parents, nous connaissons pourquoi on ne peut pas donner certaines choses pour les bébés. On ne peut pas donner 4 paquets de chocolat pour un bébé. Il aura le problème certainement. On ne peut pas donner l'électricité pour jouer. Mais pourtant, nous demandons les choses comme ça avec notre Dieu. Et il ne donne pas. Et Dieu dit, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Ce qu'ils devraient récolter avec ce qu'ils demandent. Et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Et nous connaissons le reste de l'histoire. Saül, il était le roi d'Israël. Israël, elle a perdu la paix. Au départ, il était bien. Après, il y avait des chutes. Israël, elle a perdu la paix. Il y avait des guerres. Et comment le peuple a été traité? Après, il y a eu des bons rois, mais lisez dans le livre de Chroniques, il y a un bon roi, après un mauvais roi, qui font des choses atroces. Même le bon roi, comme David et Salomon, ils ont pris toutes leurs filles comme leurs femmes. Ils ont construit des grands palais. Et ce que Dieu dit, regardez verset 10, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos filles, il les mettra sur ses chars, il prendra votre fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'il court devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et l'emploiera, le laboureur, ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et attirail de ses chars. Verset 13, il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit et vos semences et de vos vignes. Il donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes. Et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi et vous vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa écoutez la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi serons comme toutes les nations. Notre roi nous jurera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, est redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Quelle tristesse. C'est triste ce passage. Que Dieu, il donne ce qu'il demande. N'est-ce pas, la volonté de Dieu est meilleure pour nous? Et Dieu les a avertis ce qu'ils peuvent faire. Mais le peuple, ils ont rejeté Dieu en tant que roi, comme roi. Ils voulaient choisir un autre roi. Mais aujourd'hui, nous devrions poser ces questions. Qui est notre roi? Est-ce que le Seigneur est vraiment notre roi? On peut avoir un seul trône dans notre cœur. Il ne peut pas avoir deux trônes. Est-ce que le Seigneur, notre roi, il est assis sur le trône de notre cœur? Ou moi-même? Ou je place quelqu'un d'autre qui peut diriger ma vie? Et que le Seigneur nous épargne de faire une telle décision, d'avoir un autre, à part que le Seigneur, comme roi de notre vie. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre roi, nous te remercions, Père, pour ces exemples que tu as laissés dans les pages de ta parole. Seigneur, des choses que nous devrions faire, aussi les choses que nous ne devrions pas faire. Seigneur, tu n'as rien caché dans ta parole. Tu as dévoilé les vies des hommes qui sont comme nous, les hommes de la chair et du sang, qui sont conduits comme nous, nous conduisons avec toi. Seigneur, parfois nous sommes capricieux, nous sommes têtus. Seigneur, nous ne cherchons pas ta volonté, mais nous voulons absolument atteindre quelque chose, avoir certaines choses qui est même nuisible à notre vie spirituelle. Épargne-nous, Seigneur, de ces choses. Nous te remercions pour ta grâce et pour ta miséricorde qui nous sauve des choses que nous pourrons traverser autrement. Seigneur, tu es un Dieu d'amour et nous savons que tu nous aimes. Seigneur, nous voyons ton amour dans chaque page de ta parole. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'au bout et tu étais jusqu'à Golgotha parce que tu nous as aimés et tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, puisque un jour nous pourrons régner avec toi. Seigneur, tu nous as fait des fils pour être héritiers du ciel, de ton royaume. Seigneur, quelle grâce, quel privilège que nous avons. Aide-nous à comprendre ce privilège d'être tes enfants, d'être appelés tes saints, de pouvoir servir un Dieu qui est saint. Seigneur, donne-nous la sagesse et l'intelligence pour se conduire dans ce monde. Seigneur, de donner à tout ce que tu mérites. Seigneur, tu nous as sauvés de la mort. Seigneur, tu mérites notre vie. Seigneur, nous abandonnons notre vie entre tes mains et que ta volonté soit faite dans la vie de chacun d'entre nous et ton nom soit glorifié. Nous demandons tout cela dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Et pour ta seule gloire. Amen.